Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, la géopolitique au lycée.
C'est ça, puisque c'est le début du bac lundi et que dans un an, certains des lycéens travailleront sur une épreuve de géopolitique, plus précisément histoire, géopolitique et sciences politiques. Ce sera une des 12 spécialités des nouveaux programmes du bac. Reconnaissance pour une discipline plutôt réservée aux grandes écoles, aux écoles spécialisées, aux diplomates. Alors les relations internationales dans les classes, pour servir à quoi ou servir qui? On voit ça avec vous, Pascal Boniface, bonjour.
Bonjour, Guillaume Martinet.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes le directeur de l'IRIS. Alors, nous avions justement participé à une table ronde sur le sujet le 22 mai. Vous êtes l'auteur d'ailleurs récemment de La géopolitique, 50 fiches pour comprendre l'actualité. C'était chez Erol. Alors, La géopolitique au lycée l'année prochaine, c'est aussi d'abord un manuel que vous avez supervisé. 5 thèmes de travail, la démocratie, la puissance, les frontières, l'information, les rapports religion-État. Cette géopolitique enseignée dans les universités un peu partout dans le monde, mais il semble que la France soit le premier pays à l'introduire dans l'enseignement secondaire, c'est bien ça ?
Oui, effectivement, c'est une reconnaissance, puisque la géopolitique a longtemps été une matière un peu sulfureuse, parce qu'elle avait été, disons, très largement interprétée par les nazis, et donc elle était vraiment considérée comme étant une matière vraiment à bannir. La récupération de cette matière par les militaires en Amérique latine avait également contribué à son discrédit. Et puis, depuis, on la retrouve parce que c'est la réalité internationale, parce que c'est la mondialisation. Et elle est réapparue un peu dans les universités, beaucoup, comme vous l'avez dit, dans les écoles de commerce, et désormais au lycée, parce qu'effectivement, le ministère, à mon avis, à juste titre, a jugé qu'à l'heure de la mondialisation, eh bien, les jeunes Français ne pouvaient pas ignorer les réalités internationales contemporaines. Je pense qu'aujourd'hui, la géopolitique, un peu comme l'anglais, elle est utile à tous. Tout le monde n'en fera pas son métier, mais chacun aura besoin d'en avoir au moins les premiers éléments.
Et alors, la géopolitique, un peu comme l'anglais, utile à tous, est-ce que, par exemple, on pourra en voir une bonne illustration dans la polémique qu'il y a eu au sujet des otages français qui étaient touristes au Bénin, d'avoir méconnu en quelque sorte les avertissements? C'est un peu ça, ce monde mondialisé dont vous parlez?
Oui, effectivement, c'est un peu ça. C'est aussi prendre en compte les réalités de la puissance chinoise, des frontières également, et tout ceci parce que aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, nous sommes impactés par ce qui se passe à l'étranger. Si, par exemple, un nouveau tanker était endommagé dans le détroit d'Oman, eh bien, on aurait des répercussions économiques immédiates dans notre pays. Donc, on voit bien que ce qui se passe à l'étranger a des répercussions dans notre vie quotidienne, dans notre vie économique et aussi dans notre vie de citoyen.
Et avec, encore une fois, pour la France et pour l'introduction auprès de la jeunesse des notions de géopolitique et de ce savoir, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas une volonté spécifique du mandat d'Emmanuel Macron? Là, je fais référence à son discours de la Sorbonne en 2017, où il disait chaque étudiant devra parler au moins 2 langues européennes d'ici à 2024 et la moitié d'une classe d'âge doit avoir passé, avant ses 25 ans, au moins 6 mois au moins dans un autre pays européen. On voit qu'il y a un projet pour la jeunesse ici.
Oui, il y a un projet, c'est le projet du président, c'est également le projet, je crois, du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui est un ancien directeur d'une école de commerce, l'ESSEC, qui était aussi universitaire auparavant, et donc qui est tout à fait conscient de ces enjeux. Et pendant très longtemps, on a pensé que les Français étaient finalement réticents face à la mondialisation, qu'ils la méconnaissaient, qu'ils ne la prenaient pas en compte. Alors ensuite, on peut avoir des jugements tout à fait différents sur ces processus, mais en tous les cas, ne pas les connaître et ne pas les prendre en compte est tout à fait une erreur dramatique et coûteuse. Et donc, si l'on veut que la France puisse continuer à faire entendre sa voix, puisse continuer à avoir une diplomatie active et une économie plus ou moins vaillante, eh bien, il est nécessaire, une fois encore, de prendre en compte ces réalités extérieures et de ne pas raisonner comme si on était dans un précaré insensible à toute évolution internationale.
Et justement, quelque chose qui a changé auprès des autorités, me disiez-vous en préparant cette émission, c'est que par rapport à il y a quelques années où on pouvait considérer qu'aller à l'international, c'était un peu, une villégiature ou du tourisme à long terme, là, aujourd'hui, il y a une véritable plus-value d'international, vous diriez?
Oui, tout à fait. Pendant très longtemps, par exemple, si je prends la carrière des militaires, ceux qui étaient affectés à l'étranger, eh bien, ils avaient leur carrière était impactés de façon négative par cela, parce que on considérait qu'ils avaient déserté le centre et qu'ils s'étaient marginalisés. Aujourd'hui, dans la plupart des fonctions, qu'il s'agisse d'une entreprise ou de la fonction publique, un séjour à l'étranger est au contraire valorisé. Ça fait partie des impératifs de la fonction et de la formation. Et on voit très bien depuis quelque temps déjà nos étudiants, qu'il s'agisse à l'université avec le programme Erasmus ou aussi bien dans les IEP, écoles de commerce, le fait de passer une année à l'étranger est maintenant non plus une exception, mais plutôt la règle. Et ceux qui ne l'ont pas fait ont un handicap par rapport à leurs camarades.
Et vous disiez au début de l'entretien, discipline un peu sulfureuse, sans doute en référence à ses fondements ou à ses pères fondateurs, puisqu'il y a certains concepts comme le Lebensraum, l'espace vital, qui voilà. A été utilisé ensuite par les nazis, mais il y a aussi, enfin, disons, cette réputation d'impérialisme, hein, de la géopolitique ou de sédition. Mais vous diriez qu'aujourd'hui, il y avait quand même besoin d'une réhabilitation épistémologique, alors même qu'elle est partout, hein, cette géopolitique du monde de Donald Trump, des réfugiés syriens, du tourisme, du football même, hein, vous le savez vous-même, voilà.
Oui, effectivement, parce que tout simplement, les frontières n'ont plus le même sens, elles existent toujours, elles n'ont pas disparu, mais elles ne sont plus impénétrables comme auparavant. On le voit bien, par exemple, avec le flux des réfugiés. Auparavant, on ne pouvait pas sortir d'un pays. Aujourd'hui, les frontières cherchent plutôt à empêcher les gens d'entrer qu'à en sortir. Mais en tous les cas, effectivement, cette notion de géopolitique, elle est un peu partout, dans tout. Elle peut s'appliquer à différents domaines. Et elle est vraiment, effectivement, ce n'est pas forcément la guerre. Le fait de dire que la géopolitique serait reliée uniquement à des visées impérialistes ou agressives, c'est tout simplement inexact. C'était une interprétation par une catégorie politique, mais le fait de prendre en compte, par exemple, aujourd'hui les routes de la soie et d'avoir une connaissance plus approfondie de la réalité chinoise est très franchement indispensable par rapport à la place que la Chine a dans le monde. Le développement de la Chine avait assez peu d'impact auparavant sur l'Europe. Aujourd'hui, il est central.
Et alors, justement, là, j'ai sous les yeux le manuel qui sera utilisé dans les classes de première l'année prochaine. Je le disais, il y a 5 thèmes qui sont assez conceptuels avec, là, vous l'avez bien souligné, une bonne présence, hein, effectivement, des réalités chinoises, que ce soit la question de la mer de Chine, que ce soit la puissance économique, les BATX aussi. Vous diriez que ça a été bien pesé, disons, la question des réalités géopolitiques et de l'adéquation avec la volonté des programmes de l'éducation nationale?
Alors, par rapport au manuel Hachette, je suis un peu jugé parti, mais effectivement, j'étais très heureux d'être associé à ce manuel, parce que je crois que pour un jeune qui rentre en première, à la fin de l'année, il sera un peu impressionné par l'ampleur du programme au départ, mais on sait que les programmes sont toujours très chargés, mais je pense très honnêtement qu'à la fin de l'année, grâce à l'aide des professeurs, qui sont tous très partants, ils sont très intéressés, je suis en contact fréquent avec les profs d'histoire géo, ils sont très intéressés par cette matière, et il y a un appétit pour la géopolitique, et le jeune de première qui va rentrer en septembre, faire sa rentrée, eh bien au mois de juin, il aura quand même une autre vision du monde, et ça c'est très positif. Oui. Et je peux témoigner aussi, pour aller souvent en région faire des conférences, qu'il y a vraiment à l'échelle nationale un appétit pour la géopolitique. Et le fait de dire que c'est réservé à une petite élite savante est quelque chose, une idée reçue que l'on doit battre en brèche, parce qu'elle non plus ne correspond pas à la réalité.
Et justement, il y a un sujet par exemple qui est énoncé dans le manuel, les puissances internationales, sujet pour les classes de terminale, les puissances internationales aujourd'hui, fondements traditionnels et formes indirectes, avec par exemple la proposition d'un schéma sur les BATX, hein, les GAFA chinois notamment. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets un peu trop pointus ou trop conceptuels qui sont proposés là?
Bah, disons que ensuite c'est au professeur d'aider un peu à se faire son chemin et à finalement dédramatiser, à montrer que ce n'est pas si compliqué que cela et que ce n'est pas parce que le monde est complexe que son interprétation doit être complexifiée et que on peut sans simplification excessive rendre la compréhension des réalités internationales plus simple.
Et dernière chose, peut-être petite critique sur le fond du manuel. C'est vrai qu'on a une géopolitique qui est présentée peut-être et pour cause. Puisque l'éducation nationale comme géopolitique des États, beaucoup, peut-être des États seulement, j'ai bien regardé, mais il n'est pas question, par exemple, de Daesh, ni de ce qu'on appelle un peu les nouvelles géopolitiques, que ce soit des LGBT, du sport, des minorités, ou plus largement les thèses de l'irruption du social dans l'arène internationale, par exemple.
Oui, alors il faudra voir comment seront faits les programmes de terminale, parce que là, c'est pour les classes de première, et d'ici 2 ans, la géopolitique fera son entrée en terminale. Donc, les élèves qui rentrent à la rentrée prochaine suivront ce cursus, il faudra compléter. Mais effectivement, on peut dire que le domaine est vaste, il y a toujours un appétit pour d'autres choses. Mais si les jeunes se sentent plus à l'aise avec la géopolitique parce qu'ils auront une formation classe de première, ils seront également mieux armés pour aller compléter leur formation et satisfaire leur curiosité dans d'autres domaines, et parce que le choix est tellement multiple qu'il serait difficile de traiter tous les aspects de la géopolitique en une année sur une discipline.
Eh bien, c'est dit, il y en a pour beaucoup d'années. Merci beaucoup Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.
Merci
et puis merci, bonne chance aux lycéens pour le bac aussi, et au terminal ES1, particulièrement du lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre, qui ont beaucoup écouté les enjeux cette année. Bonne journée.